Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens.
Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard ?
C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour fin de séance consacrée aujourd'hui au dernier film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. On est très heureux de vous retrouver, vraiment. On sort de notre vidéoclub, on se repenche sur l'actualité cinéma, toujours en compagnie de Pierre et de Julien. Comment allez-vous les gars ?
Bah ça va, écoute.
Toujours très bien, heureux de vous voir. Bienvenue à la maison encore une fois. Et puis vous voyez qu'il y a des petites décorations d'Halloween.
Ouais.
Ça fait aussi un moment qu'on n'a pas enregistré, on a eu des petits contretemps, chacun avec des raisons d'importance diverses.
Ouais, la reprise pour la rentrée a été compliquée.
Voilà, mais on est là.
Et puis on s'est dit qu'on allait revenir aussi aux fondamentaux quand même, hein. On va revenir sur l'actu ciné. On refera des vidéoclubs quand
ouais,
même.
Bien
on
sûr.
En refera, on en retrouvera quelques-uns, on va préparer tout ça, mais. Scorsese étant de retour au cinéma, quand même, ouais, c'est pas rien.
Pas faire autrement.
Voilà, c'était indispensable, il fallait absolument qu'on soit dessus. Donc, si tout le monde est OK, on pourra y aller.
On ne dit pas. OK.
C'est parti,
allons-y. Pierre, tu nous envoies un petit morceau de la bande-annonce ?
Allez, c'est parti.
Allez, au revoir.
Bon, cette mission, c'est quoi ?
Well, our war hero has arrived.
Je me casse. That's how you are.
I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil.
I work for my uncle.
You scared of him?
Oh, he's the nicest man in the world.
The Osage, their time is over. We got to take back control of our home.
I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders.
We have so many deaths, we've lost count.
It's just bad luck.
Seems more like an epidemic than bad luck to me.
Osage is dying by the enemy. Do not let them die alone.
Evil surrounds my heart.
Killers of the Flower Moon, film fleuve de presque 3h30, réunissant enfin sur grand écran Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Je pense que c'était le fantasme de beaucoup de cinéphiles aussi de les voir sous la caméra de Martin Scorsese. Martin Scorsese l'a fait, il le voulait depuis très très longtemps. C'est l'un de ses films les plus chers, je crois, d'ailleurs.
Son film le plus cher.
C'est son film le plus cher.
200 millions de dollars.
Voilà. Que
apparemment, ça sera encore plus.
Qu'aucun studio ne voulait financer, a priori. Ouais. Il a fallu que donc Apple rentre dans la danse, mais tout ça on va y reparler.
Ouais,
on va en reparler. C'est du grand cinéma, c'est du très très grand cinéma, c'est à voir évidemment sur grand écran. C'est vrai qu'aujourd'hui quand vous évoquez le nom de Martin Scorsese, bah tout de suite dans la tête du grand public c'est Le Loup de Wall Street, sauf que c'était il y a 10 ans, et il ne faut pas oublier qu'entre temps Martin Scorsese aussi a été présent, peut-être trop discret. C'est sûr que ces derniers films ont été moins électriques et moins survoltés que Le Loup de Wall Street, hein. Il avait 70 ans à l'époque, hein, quand même, hein, Martin Scorsese, quand il envoyait Le Loup de Wall Street à la face du grand public.
Un film de petits jeunes.
Voilà, exactement. Qui veut pitcher le film ? Est-ce que quelqu'un veut se lancer concernant Killers of the Flower Moon, Pierre ?
Ouais, pas évident.
Allez, vas-y.
Parce que
ouais, pas évident.
Killers of the Flower Moon, c'est basé déjà sur... un fait réel, hein. Donc c'est un fait divers qui a eu lieu à la fin des années, enfin au début des années 20 aux États-Unis, qui a été rapporté dans un roman qui apparemment, enfin un roman, enquête de David Grann, qui est un auteur qui est très souvent adapté à Hollywood, hein. Très récemment c'était The Lost City of Z par exemple.
C'est ça qui l'a fait connaître. Ouais.
Qui l'a fait connaître. Le prochain film de Martin Scorsese sera également adapté d'un roman de ce monsieur, The Wager, qui est un film d'intrigue maritime autour de personnes isolées sur une île. Peut-être on en reparlera tout à l'heure. Enquête qui a fait un grand chambardement quand même au moment de sa sortie aux États-Unis, puisque je pense que ça a fait découvrir à la plupart des gens, et c'est le cas également avec ce film, cette affaire qu'ont subi donc cette peuplade native américaine, les Osage, qui ont donc été victimes d'une série de meurtres. C'est un événement très très particulier dont je n'avais absolument jamais entendu parler.
Pareil.
À mon avis, 99,9% des spectateurs en France, en tout cas, vont découvrir le fait divers.
Même aux États-Unis. Hein.
Même aux États-Unis.
Oui, c'est possible. Ouais.
Non, mais là-bas, je sais que le roman avait eu quand même un certain retentissement. Mm. Et j'ai vu qu'il y avait eu déjà alors, un film en 1926, je pense qu'il a été un petit peu oublié, un film un peu plus tard.
Un film sur le FBI avec
James Stewart,
qui refait un peu toute l'histoire du FBI de manière hyper romancée.
D'accord.
Et c'est vrai que cet épisode, on en reparle, mais c'est vraiment un épisode, c'est pas le sujet du film en fait. Ouais. On va voir le truc avec les gangsters comme Al Capone, Dillinger, ce genre de choses. Mm. Mais tout, ça sera jamais traité en fond en fait. Mais c'est vrai que le film en faisait un film de Melvin Leroy. C'est le Bureau fédéral enquête.
Ah c'est ça. Ouais, l'ai voilà. Vu, ouais. Ouais.
Et donc c'est plein de petites scénettes en fait d'un personnage qui parcourt un peu toute l'histoire du début du siècle, du 20e siècle, à travers les yeux de la construction du FBI. Mais le film ne s'y arrête jamais à proprement parler en fait, c'est pas un film sur ce sujet-là.
Donc tout ça pour dire qu'en gros c'est de la découverte totale d'un fait divers qui est absolument abominable et qui est extrême. Enfin c'est fascinant comme histoire.
Bah, on est au-delà du fait divers, j'ai l'impression quand même. C'est vraiment un fait historique.
Ouais, un événement dans l'histoire de l'Amérique. Ouais. Pour ce qui est du film, tout commence par l'arrivée en train dans ce petit bled de l'Oklahoma du personnage qui est interprété par Leonardo DiCaprio, qui est donc Ernest, qui débarque, qui revient de la Première Guerre mondiale en Europe, qui a été blessé, qui est un mec qui est rustre, pas très malin, pas très beau. Enfin, on reparlera de
ce personnage.
Voilà, on reparlera du personnage et de l'interprétation de DiCaprio. Qui est pris sous l'aile de son oncle, interprété par Robert De Niro, dont j'ai oublié le nom, King, tout le monde l'appelle King.
King William Hale.
William King Hale,
ouais,
je crois.
Mais je crois qu'il se fait appeler Bill aussi, parce qu'à un moment, il est fait.
Bon, restons sur King. Hein,
William,
c'est
Bill. Mais oui, qui mais est un peu le parrain. Comment dire, le parrain local. Alors,
mécène de la communauté.
Oui, mécène de la communauté native, grand.
Mais propriétaire terrien d'un ranch.
Exactement, ouais. Et du coup, j'ai
non,
du mal à trouver.
En fait, je suis fatigué aussi. Il arrive en Oklahoma sur cette terre qui est donc. Une terre où le pétrole jaillit, en fait.
Qui est une réserve indienne.
Et en fait, c'est ça, on est sur un territoire, une réserve indienne qui a été donnée à ces Osage qui ont été déjà expulsés.
Qu'ils ont acheté, en fait.
Qu'ils ont acheté, qui ont été expulsés de plusieurs endroits déjà.
Je crois que c'était la troisième fois.
Le Missouri, ouais.
Ils ont été dans le Kansas.
On a fait que les chasser, de toute façon.
Ils arrivent sur cette terre dans l'Oklahoma et il se trouve qu'ici, sortent carrément de terre des geysers de pétrole.
Ils découvrent du pétrole au début du siècle.
Ce qu'ils appellent à un moment dans l'intrigue, ça c'est l'or des Blancs, puisqu'en fait ils comprennent la valeur marchande du pétrole et eux, cette tribu native, s'enrichit considérablement.
Ils louent leur terrain à des promoteurs pétroliers.
Ils sont propriétaires, ils laissent les Blancs l'exploiter et on voit, c'est un truc que pareil, personne, on n'a jamais vu ça dans la représentation des natifs au cinéma. Riches, très bien habillés, avec des voitures, leurs chauffeurs sont des Blancs, leurs domestiques sont des Blancs, ils ont des énormes baraques.
Les blancs les supplient d'acheter leur voiture pour pouvoir.
Mais ils sont sous tutelle des promoteurs et des banques blanches.
Très rapidement.
On en reviendra là-dessus aussi.
Le système les met malgré tout sous tutelle. Mais donc, dans ce contexte, Ernest, qui vient ici en espérant faire fortune, gagner de l'argent, va se retrouver à. Alors, il est chauffeur de taxi, tombé amoureux, plus ou moins accidentellement, on va y revenir, d'une très riche native qui est interprétée admirablement bien par Lily Gladstone, qui s'appelle Molly là-dedans.
Molly.
Et leur histoire d'amour sera le cœur de cette intrigue dans laquelle vont se mêler une conspiration et des meurtres absolument atroces.
Voilà, ah, parce qu'il dit aussi au tout début du film, c'est que ces Indiens-là tombent comme des mouches.
Ouais,
et que personne n'enquête dessus, alors que toutes les morts sont hyper suspectes, puisqu'on a un défilé de cadavres dès les premières minutes avec la voix de Lily Gladstone là, qui t'explique que.
Lily.
Cette personne a le tel âge, pas d'enquête.
Pas d'enquête.
Cette personne a tel âge, genre, en plus des vingtenaires, quoi.
Ouais.
Et ça tombe comme des mouches et. Dans les faits réels, on parlait de la malédiction des Osage ou un truc comme ça. Et mais personne n'enquête en fait.
Tout le monde s'en fout.
Oui, tout le monde s'en fout parce que finalement, on comprend assez vite que ça arrange bien les affaires de
des
King.
Blancs. des Blancs en manière générale.
De manière générale, oui.
Et ce que je voulais juste rajouter avant de laisser la parole, c'est que si j'ai bien compris, moi je n'ai pas lu le bouquin, si j'ai bien compris, le bouquin est centré autour du personnage principal qui serait non pas Ernest, mais l'enquêteur du FBI, film.
Ouais.
Dans le film, le personnage qui est joué par Jesse Plemons, qui arrive assez tardivement dans l'intrigue. et que ni Scorsese ni DiCaprio, durant le développement, n'étaient parfaitement satisfait, il y avait quelque chose qui clochait.
Parce qu'en fait, le projet est en gestation depuis 2017. En 2017, donc c'était avant Irishman.
Ouais.
Donc Scorsese était en train de préparer Irishman pendant ce temps. Et donc il y avait ce scénario qui était qui suivait le bouquin en fait, qui était vraiment un truc un polar façon enquête avec un blanc qui enquêtait sur des crimes avec en toile de fond les Osage et tout le monde était parti là-dessus, Scorsese, De Niro et DiCaprio et le scénariste Eric Ross.
Ouais.
Et au fil du temps, j'ai pas très bien compris exactement où c'était, mais j'ai l'impression que c'est à peu près à un moment où il y a eu la pandémie.
Ouais, le Covid.
Il y a eu une envie de revoir le projet parce que ça satisfaisait personne en fait. Scorsese avait l'impression qu'en fait DiCaprio n'aurait rien à jouer de nouveau, que de le voir faire un enquêteur polar, ça pouvait rappeler un peu Shutter Island,
totalement,
d'une certaine façon, et DiCaprio lui se sentait pas de faire le film parce que on était en plein, il y a eu Black Lives Matter qui était passé cette particularité du cinéma américain qui avait été un peu dénoncée, le white savior. Et lui, en fait, ça le gênait un peu de dire, c'est encore l'histoire d'un sauveur blanc qui va sauver une communauté, mais à laquelle on ne va pas s'intéresser. Et donc, en fait, ils ont demandé à Eric Roth de revoir un peu sa copie. Quand bien même, il y a eu apparemment des... il y a eu une bataille d'arguments pour dire... et donc, ils ont renversé le projet, en fait.
Ce que j'ai entendu, c'est que DiCaprio s'était entretenu avec Scorsese et ils avaient essayé de réfléchir à vraiment quel était le cœur du film.
Ça parle
de quoi ?
T'es sûr du White Savior ? Parce que moi, j'ai pas du tout vu passer ça, en fait.
Il y a une déclaration, apparemment.
Moi, j'étais plus resté sur Scorsese et DiCaprio qui disait, finalement, le personnage de Jesse Plemons, il a pas assez de biscuits, il a pas assez de compos, il a pas grand-chose à défendre de plus que...
Et que le cœur émotionnel, c'est ce couple, Ernest, Molly, et que du coup, DiCaprio a suggéré d'interpréter Ernest.
Et puis surtout que...
Et de centrer le film là-dessus.
En vrai, ça rejoint les tropes, si j'ose dire, de Scorsese, le rise and fall, finalement. C'est la chute, la gloire, puis la chute.
On y reviendra.
Bien sûr, mais... le projet à la base aurait pu faire un bon film, ça aurait pu être un très bon film d'enquête, un polar. Je pense que même le Scorsese est dans une période où en fait il y a une envie de déconstruire les genres auxquels il s'attaque, comme il l'avait fait Irishman avec ses films de gangsters, qui était une vision complètement désenchantée cette fois. On avait fait un épisode dessus. Ça date, mais...
C'est vrai, je m'en rappelais plus.
C'est vrai.
Je sais même plus ce que j'ai dit.
C'est vrai qu'on en avait.
Donc réécoutez cet épisode comme ça après vous nous dites ce qu'on a dit dessus.
Et
je ne sais même plus non plus ce que j'ai dit dessus.
J'ai un souvenir assez mitigé du film, mais je ne me rappelle pas.
C'était une version désenchantée de toute sa série de films de films de gangsters.
Oui, alors pour le coup, oui, c'est vrai que Irishman, rétrospectivement, parce que je l'ai vu qu'une seule fois, on était vraiment plus dans l'ambiance Once Upon a Time in America, quoi.
Oui, encore, je trouve qu'il n'y avait pas trop de lyrisme.
Quand même.
Il s'attaque à son premier western, entre guillemets, qui peut être aussi un polar, mais qui finalement, d'entrée de jeu, te montre qu'en fait, ça ne va pas être vraiment le western ou le polar que tu attends, en fait.
Mais c'est ça qui est intéressant.
Et c'est ça qui va faire, pour moi, qui fait le sel du film. Ouais. Mais on est vraiment dans une déconstruction du genre où, l'intérêt n'est pas de savoir qui fait ses crimes. En fait, dès les premières minutes, c'est très vite établi.
Alors, il a parlé de ça dans une interview. Il a une réponse que j'ai trouvée assez marrante. Je ne sais plus si c'est un journaliste ou si c'est lui qui lance le sujet, mais... en gros, il en vient à dire que son film, certes, donc c'est une histoire de crime, il faut bien trouver le coupable, mais il dit en fait, j'ai pas fait un whodunit. En gros, hein, qui l'a fait ? Il dit, j'ai fait un. Qui l'a pas fait ? Tout le monde est coupable, quoi. Voilà.
Oui, parce que c'est même pas spoiler, on comprend très vite dès la première conversation entre DiCaprio et De Niro, quel est le plan un peu de De Niro qui est derrière tout ça, qui en fait est. Et il veut mettre la main sur l'argent des Osages en infiltrant ces familles, en les faisant épouser les femmes du clan par des membres de sa famille, des blancs,
ou des amis,
des amis, des
proches.
Et
on comprend que c'est une pratique. Hein,
et c'est une pratique.
Ouais. C'est une pratique qui est commune aux autres blancs, puisqu'à un moment, il dit, mais toi, t'es un squawman. Et en fait, sous-entendu, c'est blancs qui vont épouser de riches natifs pour...
De toute façon, dans la vraie histoire, c'était une espèce de nouvelle ruée vers l'or. Là, c'était ruée vers le pétrole. Parce qu'on le voit dans cette ville de Fairfax, qui est une espèce de ville champignon qui s'est créée au milieu de nulle part. Parce que... c'est peut-être pas dit dans le film, mais moi je me suis renseigné. En fait, ce morceau de l'Oklahoma, c'est une terre que personne ne voulait parce qu'elle est inexploitable. Tu peux pas élever du bétail, tu peux pas faire pousser rien du tout parce que c'est soit t'as des étés monstrueux ou des hivers arides comme c'est pas permis. C'est tout plat, il y a rien du tout. Et en fait, c'est un bout de terrain que les Américains, le gouvernement américain ne savait pas quoi faire en fait.
C'est-à-dire que
on l'a refilé au.
et on le devine et on le voit bien d'ailleurs dès l'ouverture du film quand. Quand DiCaprio arrive, quand il est escorté en bagnole, avec ce plan aérien, ce travelling aérien, où tu vois cet horizon à perte de vue, tu te dis « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Qu'est-ce que tu peux y faire là, en fait ?» Tu vois, bon, après, tu vois
les champs de pétrole.
Les champs de pétrole qui émergent. Mais c'est vrai que je pense que ça, c'est assez bien retranscrit au début du film, finalement.
Mais c'est pas dit explicitement. Mais c'est vrai qu'on voit que, de toute façon, les seuls trucs qui poussent, c'est les puits de pétrole. Ouais. Et donc, en fait, le plan donc, est de faire épouser ces jeunes femmes par des blancs qui soient plus ou moins proches de Big King. L, qui est un franc-maçon.
37e génération
37e, 38e ou 37e, je sais plus.
C'est un détail sur lequel je voulais revenir tout à l'heure sur son personnage.
Et puis après, de faire plus ou moins discrètement se débarrasser de ces femmes pour pouvoir que les héritiers puissent toucher comme il appelle ça, je ne sais plus comment il appelle ça en américain, mais les dividendes.
Les dividendes,
en français, ils traduisent ça par les dividendes, mais je crois qu'il y a un terme exact. Et donc, en toute discrétion, enfin plus ou moins en toute discrétion, d'éliminer ces jeunes femmes et d'empocher la maille. Et en plus, il va vouloir en plus surtout empocher la maille lui, quitte à trahir son entourage lui-même.
Non mais ça, enfin, je veux dire, c'est un truc, je sais pas comment dire, mais c'est tellement machiavélique et affreux et vicieux. Enfin, en fait, ce fait divers, encore une fois, non, cet événement, c'est absolument abominable. Enfin, j'avais jamais entendu parler de ça.
Bon, on a fait un très grand pitch quand même là. Ouais. On est rentré dans les détails.
Un très grand film hein, aussi.
Non, mais alors justement, grand film ou pas, je n'en sais rien.
Non mais je veux dire, c'est un gros film, tu vois.
C'est dense. C'est dense. Pour moi, ça se pose là. Alors.
Très 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 grand film.
Ah oui, carrément. Ok. Jules, tu vas garder la parole. Qu'est-ce que tu as pensé du film?
Écoute, moi, c'est un film qu'il faut digérer aussi. Hein. C'est 3h30, c'est un film qui va à l'encontre de tes attentes. Mais contrairement à des films qui ne te donnent pas ce que tu attends, c'est Scorsese qui, en fait, dès le départ, te dit « Je ne vais pas te donner ce que tu veux, mais regarde ce que je te propose à la place. » C'est un film qui propose quelque chose à la place. Et c'est un...
C'est la fameuse proposition de cinéma.
Une proposition, une proposition de cinéma, une proposition qu'on ne peut pas refuser, j'ai envie de dire. C'est un film sur le désenchantement du rêve américain en fait. C'est une tranche d'histoire américaine, d'une histoire que les Américains n'ont pas voulu voir en fait, ou ne veulent plus voir, enfin au point que on l'a dit, il y a beaucoup de gens qui ont appris ce tranche d'histoire qui est rattaché dans le film aussi, parce que là où ça se passe en fait, c'est pas très loin de Tulsa. Donc Tulsa dont la mini-série Watchmen avait remis en lumière un épisode aussi hyper tragique.
Ah oui, des émeutes raciales du massacre d'un quartier noir.
D'un quartier noir entier en 1900, dans les années 20 aussi.
Il voit les événements au cinéma à un moment.
Ouais, oui, donc ça se rapproche. Et pareil, c'est un événement que la série Watchmen... que plein d'Américains ont redécouvert en fait, ou ont découvert eux-mêmes pour la première fois en fait. C'est un événement qui avait été complètement rasé de l'histoire américaine. Et donc parce que on imagine nous les Noirs américains ou les Amérindiens du début du siècle, c'est des pauvres, ils vivent dans des conditions ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui pour certaines communautés amérindiennes. Et en fait on s'imagine pas des Amérindiens qui soient riches, qui soient florissants, qui adoptaient vraiment le mode de vie occidental. Et tout ça, c'est déjà, ça fait déjà un intérêt du film. Et c'est surtout que c'est, moi je pense que c'est vraiment un beau film parce que c'est vraiment un beau chant funéraire. C'est un film qui est parcouru par la mort dès le début en fait. Mmh. Le film s'ouvre sur une cérémonie Osage funéraire où en fait ils enterrent le calumet de la paix en enterrant en fait leur mode de vie. Le chef de la communauté là te dit on va devoir adopter le mode de vie des blancs et on va devoir oublier notre culture. Donc déjà, on pose le problème, la condition amérindienne, on la pose déjà d'entrée dans un film, dans une société actuelle aujourd'hui, on la regarde plus tellement en fait. Il y a eu Wind River il y a quelques années de Taylor Sheridan qui montrait un peu comment c'était la communauté indienne aujourd'hui et c'était pas bien folichon et c'était pas un film qui...
Ils plus considérés, ils sont complètement oubliés.
Ils sont complètement oubliés.
Ils n'existent plus quoi.
Et donc déjà, de base, c'est un film qui t'oblige à regarder quelque chose que tu n'étais pas forcément prêt à regarder. Et déjà, je trouve que c'est la première force du film. Et comme je disais, c'est un film qui déconstruit les genres. On a une première arrivée en train dans une gare qui pourrait être référence à plein de westerns comme Il était une fois dans l'Ouest, par exemple. Mais bon, entre l'arrivée de DiCaprio dans le film et Claudia Cardinale dans le Sergio Leone, il y a un manque d'enchantement qui
pas le même glamour hein.
C'est pas le même glamour, tu vois, le mec il arrive tout le monde fait la gueule, c'est une espèce de ruée vers l'or, mais tu sens en fait c'est un point sur lequel je reviendrai, c'est l'avidité qui est vraiment la thématique du film. Je pense c'est vraiment un film qui est parcouru par l'avidité totale. Et le mec, il débarque, il y a une bagarre générale, tu sais pas pourquoi, il y participe.
Ouais, il faut un coup en loose day, puis après il se casse.
Il y a un côté...
Ça ne peut pas se tenir à cette époque, c'est incroyable.
Il y a un côté, on va vous montrer le côté sale, en fait. Et on voit aussi, dès le début, il y a l'émergence du pétrole, qui émerge tout seul, tu vois. Et les Indiens qui dansent et qui sont tachés, tu vois, du pétrole. Et déjà, tu vois, ça y est, ça souille tout en fait. Déjà, tu sais que ça va mal se passer parce que, on va être riche, tout ça, ça va être génial. Mais déjà, tu sens, ouais, non, en fait, c'est un poison en fait. Ouais. Ça va vous tuer en fait.
Ça arrose partout, ça en fout partout et il va falloir créer de l'ordre là-dedans. Et
je trouve que c'est un film. Chacun pour sa gueule, quoi, un peu, quand même. Plus on y repense, moi, c'est un film que moi, je l'ai vu, je l'ai vu il y a quelques jours, là, la veille de la sortie. Bon. Ça mature et plus j'y repense en fait et plus je me dis quel film ouais. Parce que c'est une vraie proposition de cinéma, c'est un film qui n'aurait pas dû sortir au cinéma,
c'est vrai,
puisque à la base c'est un projet qui a été refusé par Paramount et par d'autres studios parce que c'est un film qui coûte très cher.
C'est surtout qu'on en est là, quoi. Scorsese, Leonardo DiCaprio, De Niro.
C'est pour ça qu'il a fait
Western.
Attention.
Personne ne veut produire.
Attention, c'est un film très verbal aussi.
Ah oui.
C'est
un film qui n'est pas commercial. Voilà. Mais en même temps, c'est un film qui a une ambition parce que tous les décors ont été faits en vrai. La ville de Fairfax, en fait, ils se demandaient est-ce qu'ils allaient la tourner à Tulsa ou à une ville environnante. Et en fait. C'est des villes qui étaient trop abîmées, donc ils ont tout reconstruit pour question de véracité et de pouvoir tourner comme ils voulaient dans cette ville un peu western, ville champignon avec une rue centrale. Donc c'est un film qui a une ambition quand même de...
Un peu comme dans Retour vers le futur 3, quoi.
Même ambition. D'ailleurs, tu cumules Retour vers le futur 2, Retour vers le futur 3, tu dois bien avoir 3h30 de film.
Ouais, j'aurais bien aimé la musique de Silvestri sur ce Scorsese-là.
Elle est super, la musique.
C'est un film tellement sombre, qui en dit tellement aujourd'hui sur l'Amérique d'aujourd'hui.
C'est ça, c'est extrêmement contemporain.
Puisqu'on te parle de... Il y a la place de la femme dans la société, ce genre de choses, des questions qui bouillonnent depuis un certain temps maintenant, actuellement. C'est un film qui te facilite pas les choses, parce qu'en plus c'est un film qui ne dit pas forcément tout explicitement ce qu'il a envie de dire, qui te laisse beaucoup dans des zones grises, un peu d'ambiguïté. On parlera justement, je pense, au personnage de DiCaprio, pour lequel on peut avoir, je pense, mille et une opinions. Il est toujours fluctuant et on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Et non, voilà, ça, moi je trouve que c'est un film fascinant, quoi. Et c'est une proposition de cinéma, comme on a plus l'habitude de voir, qui tombe à point nommé cette année, puisqu'on est une année très particulière où on voit l'effondrement d'Hollywood avec ces blockbusters qui sont des échecs sur échecs, la grève hollywoodienne qui a perdu encore à l'heure où on enregistre. Hein, les scénaristes, le problème des scénaristes a été réglé, et là il y a toujours les acteurs qui font la grève. Et avec ce phénomène qu'il y a eu cet été avec qu'on n'a pas traité, le Barbenheimer, donc le succès phénoménal de Barbie et d'Oppenheimer de Nolan. Donc là, je suis vraiment curieux de savoir comment le public va recevoir un tel film, qui aussi n'est pas facile d'accès, comme pouvait l'être d'ailleurs l'Oppenheimer de Nolan. Hein,
je
voilà.
suis tout à fait d'accord sur le pas facile d'accès, moi, perso. Ouais.
Bah, si, ça, comme dit Thomas, hein, c'est un film assez verbeux. Il faut... Et puis, je sais que... Bah, Thomas, lui, avait pas aimé Oppenheimer pour
non,
ce
non,
côté.
Non, mais j'y reviendrai justement parce que j'ai un parallèle à faire, peut-être maladroit, mais j'y reviendrai.
Faut aussi dans quelles conditions tu as vu ce film.
Non, mais Pierre, vas-y.
Voilà, vas-y. Jouer.
Moi, ce que je vais dire, c'est que film. Très très grand film. D'accord. Pour moi, c'est vraiment, comme tu l'as répété, on a une époque où le cinéma américain ou le cinéma hollywoodien va extrêmement mal. Et Martin Scorsese, c'est vrai qu'il a une position très particulière. Déjà, c'est un vieux monsieur, hein, il a déjà 80 ans à peu près.
80, ouais.
C'est quelqu'un qui a un positionnement, déjà qui a une place dans l'histoire du cinéma américain et du cinéma mondial. C'est une référence. Martin Scorsese, c'est monumental. Et c'est aussi aujourd'hui quelqu'un qui, comme je disais, se positionne par rapport à l'évolution du cinéma. Qui ne cherche pas à aller contre, hein, c'est pas un vieux monsieur qui crie, qui dit c'était mieux avant. C'est pas seulement ça.
Oh, il est dans la résistance et il le fait savoir.
Non, mais il est dans la résistance, mais c'est quelqu'un qui encourage toujours les jeunes générations, qui parle du cinéma, qui a besoin de se réinventer. Mais c'est juste quelqu'un qui n'adhère pas à l'évolution actuelle du cinéma, du système, et qui pense qu'il y a une autre voie. Voilà. Et donc, en plus de ça, c'est quelqu'un qui fait énormément pour la préservation des films, la restauration, la diffusion.
Il y a une fondation et tout.
Il y a une fondation. C'est passionnant, en fait, le personnage de Martin Scorsese. Et dans le partage aussi, toujours à partager ses listes, ses classiques. Et donc, après toutes ces phases où il s'est positionné, là, il revient en plus avec une proposition. Là, c'est un peu ton prof qui te montre ce que lui, il fait. Et tu te dis, bon, bah, d'accord. Et là, pour moi, c'est ça. Pour moi, je le pense sincèrement, je pense que Killers of the Flower Moon, c'est un film qui fait date et qui sera probablement, à mon avis, dans les années qui viennent, ajouté à ces fameux... catalogue américain des films qui ont marqué l'histoire et qui marquent un tournant et qui ont une signification particulière culturellement, esthétiquement. Je trouve, j'utilisais le mot monumental pour parler de la carrière de Martin Scorsese, je trouve que le film est monumental, quoi. Pour moi, c'est c'est un vrai chef-d'œuvre au sens. Un maître, non mais le maître. Qui descend de sa montagne et qui te montre voilà ce que c'est aussi le cinéma, tu vois. Il fait un film comme on n'en voit plus, ça n'existe quasiment plus, c'est verbeux, mais en fait c'est pas verbeux par rapport à ce qu'on regardait à une époque, en fait c'est un film comme on en a vu, enfin comme on en voyait autrefois, tu vois. Il s'inscrit dans une longue tradition, surtout en plus il revient sur une base de western américain, ce qui est quand même pas rien pour un cinéaste américain, surtout de son âge, de s'attaquer au western. Et après, le film va du western au polar, au film de procès, au film de... Enfin, c'est multigenre, en fait. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc là, moi, c'est une tarte que j'ai prise. J'ai eu du mal à m'en remettre, quoi. Comme tu disais, Julien, il faut le digérer. Moi, je suis sorti du film en me disant heureusement que j'habite pas, genre, à la porte d'à côté du Cinoche, que je peux marcher un peu, tu vois. C'est un film où tu as besoin d'aller le voir puis de marcher. Tu vois, pour y repenser et pour absorber le choc. Parce que moi, ça a vraiment été un choc. Je m'attendais pas du tout à ça. Je trouve que la bande-annonce est assez trompeuse, même si j'y suis pas venu avec énormément d'attente. Mais effectivement, tu vas dans des directions que tu ne pensais pas voir. Tu vois un traitement de natif que je n'avais jamais vu. Enfin, le film, en plus, saute d'un style à l'autre, avec des moments
ah oui, il y a de la rupture, ouais, c'est
la
sûr.
Rupture.
Hein,
en pellicule, tournée comme à l'époque, à manivelle, en 4 tiers, en noir et blanc, ils ont vraiment tourné.
Il y a des ellipses
d'ailleurs
de temps aussi qui sont waouh.
On passe avec, comment dire, un habillage musical hyper moderne. Enfin, ça a beau être le film d'un homme de 80 ans, je trouve le film hyper moderne.
Bah, c'est Scorsese, quoi.
C'est Scorsese. Le truc.
C'est le film d'un vieux monsieur, mais qui maîtrise son outil, quoi.
C'est hyper énergique parfois. Certes, il y a une certaine, comment dire, lenteur dans le déroulement. Et en même temps, je trouve qu'il se passe toujours un truc, y a de l'intrigue, l'intrigue est passionnante. Mmh. Moi, j'ai été pris du début jusqu'à la fin, y compris aussi par la performance des acteurs, mais ça, on en reparlera. C'est plein de surprises, c'est plein de leçons. Je sais pas, enfin, je trouve que quand on, ouais, quand on aime le cinéma au sens où nous on l'entend, ouais, ouais, cette table, le grand cinéma, mmh, paf, ça se pose là, quoi. C'est très très impressionnant.
Eh ben, dites donc.
Ah ouais, ouais, non, mais c'est, ah non, mais c'est le film, c'est... est marquant.
Je crois. Ah non, mais c'est un film qui dure. Enfin, quand t'as une conception, bon, et peut-être un peu vieille du cinéma, mais en tant que un film, c'est un film. En fait, c'est un monde. C'est quelque chose qui dépasse. Sa condition de produit, mmh, industriel, quoi.
Ah oui, non, mais ça...
Et là, ça se pose là, dans, ouais, une année où, bon, bah, nous, on fait partie d'un peu de ces cinéphiles-là qui pestons un peu contre le manque de propositions de bons films ces derniers temps, de trucs un peu iconoclastes, d'un truc qui soit pas issu d'une franchise ou d'un truc qui est pensé comme une longue série de bidons de lessive à vendre, tu, mmh, vois. Là, on est dans un objet qui n'existe que pour lui-même, mm, et qui a de l'ambition, qui essaye d'aller dans des recoins, alors ne serait-ce que par ce sujet, mais ne serait-ce aussi que par sa forme, dans des crevasses, des choses là où on ne va pas habituellement, ouais, quoi.
C'est du travail d'orfèvre. Ouais. Réalisation, écriture, montage, ouais, photo. Enfin, d'ailleurs, j'ai une anecdote sur la photo que j'ai trouvé assez sympa, je vais en parler. C'est vraiment du travail d'orfèvre, quoi. C'est que des maîtres qui sont au travail et, mmh, qui te produisent un truc dément. Et quand on parlait du facile d'accès, alors oui, il y a le côté écrasant de l'histoire et, mmh, de tous ces dialogues, peut-être, mais c'est un sujet qui est quand même hyper complexe, auquel personne n'est familier, en gros, parmi les spectateurs, spectatrices. Et je pense que tu sors du film, à mon avis, grosso modo, personne n'a vraiment de problème avec la compréhension des faits et de l'histoire. Et je pense que tout de suite, alors que le film prend plein de détours, de biais, de moments de rupture dans son montage, il t'amène quand même à comprendre comment il fonctionne, c'est Osage, qu'est-ce qui s'est passé, le contexte historique, oui, le gouvernement américain qui ensuite s'en mêle. Je pense qu'on sort de là, on a l'impression d'avoir vraiment appris une leçon d'histoire.
Ouais, non, mais pour moi, le film est clair. Dans,
moi, je trouve assez limpide.
Oui, parce que tu comprends très vite que bon, ces Osage deviennent riches, qu'il y a une espèce de, voilà, comme je disais, une ruée. Là, c'est pas le ruée, ouais, vers l'or, mais c'est la ruée des blancs.
Non, mais autour, pardon, mais d'eux. Même au-delà de ça, je trouve qu'il y a vraiment un côté hyper immersif dans cet événement, mais surtout cette époque, leur culture, ouais, leur costume.
Et même chez toute la famille de l'actrice, enfin, du personnage féminin principal, Moni, elle a plusieurs sœurs, elle, ouais, a sa grand-mère. Enfin, tu comprends assez vite, en fait, un peu la généalogie du clan. Tu comprends un peu qui est, comment dire, il y a le frère du personnage à DiCaprio qui est ignoble, qui est joué, ouais, par un personnage qui aime bien jouer les personnages ignobles comme ça. Et tu comprends tout le système d'emblée, en fait, la manipulation qui est là. Mais le film est toujours en eau trouble parce que... donc, le personnage de Lily Gladstone, Moni... Elle est attirée par le personnage de DiCaprio tout de suite, mais en même temps elle l'appelle Coyote parce qu'elle sait très bien en fait pourquoi il est là. Elle le sait qu'il est là pour son pognon, mais elle va accepter de l'épouser. Le personnage de DiCaprio, il a parfaitement compris ce que son oncle
attend
de lui. Il l'accepte, mais en même temps on ne sait pas s'il a bien tout compris, tout ce que ça impliquait, cette histoire.
Et on a l'impression qu'il tombe sincèrement amoureux d'elle.
Alors qu'on sait que c'est un homme à femme, ouais, qui dit, y a une phrase qui résume bien, je pense, tout le personnage, c'est, y a quelqu'un qui lui demande, mais toi, t'aimes l'argent? Et il lui fait, ouais, non, j'aime l'argent presque autant que les femmes. Et il fait, et j'aime les femmes. Et donc, c'est un personnage assez grotesque, mais qui a une part de séduction. Il a une gouaille qui fait qu'il arrive à mener sa barque et en même temps il est là à donner des... Alors lui il n'exécute pas c'est pas un homme de main, mais il va faire passer les ordres de son oncle à un premier intermédiaire qui lui doit faire passer le message à un deuxième intermédiaire qui lui va faire exécuter tel personnage. Mais donc il a une culpabilité, mais en même temps on a l'impression qu'il... il est très au courant de la finalité de son geste, mais en même temps ne se sent pas lui-même responsable de quelque chose. Mmh. Donc, il y a une espèce de flou, en fait, des personnages et de certaines situations qui fait que le spectateur, malgré que le film soit verbeux, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup d'action, que le film soit parfois très posé, je trouve que ça demande une activité du spectateur en permanence pour combler lui-même, en fait, ses passés blancs, mais ces espaces où en fait on est libre de choisir, d'apposer notre jugement en fait, de dire bon bah voilà, lui c'est une ordure, et on peut dire c'est une ordure, ou ah non il a peut-être ses raisons, il aime quand même cette femme, voilà. C'est un film en fait qui où tu peux pas rester passif en tant que spectateur. Pour moi tu es obligé d'être actif, sinon si tu restes passif, ouais, je pense que le film peut être difficile à digérer en fait.
Alors, il va falloir qu'on donne la parole à Thomas parce que je vois que tu t'étais pas trop d'accord. J'avais juste rappelé les conditions dans lesquelles Thomas a vu ce film. C'est que monsieur Thomas est pas très en forme, gros mal de dos, t'arrivais pas à rester assis, voilà. Ouais. Donc c'est vrai que quand on est très mal en point et qu'on n'arrive pas à rester assis 3h26, ça fait beaucoup.
Ouais. Non mais
donc déjà tout ce que Thomas va dire est invalidé par le fait que qu'il était malade de toute façon.
Franchement, je suis très très emmerdé parce que j'écoute avec beaucoup d'attention tout ce que vous dites depuis tout à l'heure. Je rejoins énormément de choses. Je sais que moi, je suis un grand fan de Scorsese. Je suis un très très grand fan de Scorsese. Chaque Scorsese est une expérience en soi, de toute façon, qu'elle soit sur Netflix ou à la télé ou au cinéma. Je sais que j'ai vu un grand film. Je sais que j'ai vu un grand film. Je veux dire, l'ouverture déjà, cette explosion de geysers de pétrole avec ces Amérindiens qui dansent autour, cette musique très tribale qui est lancée.
Moitié rock, moitié tribal, elle est dingue.
Ce traveling aérien avec DiCaprio, tout de suite, j'ai la mâchoire qui se décroche et je me dis putain, mais ça fait une éternité que j'ai pas vu du grand cinéma comme ça qui te chope.
Du cinéma avec un grand C.
Ouais. Voilà.
Ouais, c'est immense.
Je pense à Cimino, La Porte du Paradis. Ouais. Enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui me procure des sensations en tant que spectateur. Je me dis, mais ça fait combien de temps que j'ai pas ressenti ça au cinéma, tu vois. Franchement, là, Scorsese, il m'embarque, il me dit, vas-y, je t'emmène, suis-moi. Ok, pas de problème. Ça, pour le coup, c'est une grande croix cochée déjà sur
la checklist.
Sur la checklist. Ça fait quelque chose, hein, franchement, de pas avoir ressenti ça depuis un long moment. Et je suis passionné tout de suite par les personnages, par DiCaprio. Je me dis, quand t'es acteur, quand t'es un jeune acteur, que tu te retrouves avec un mec comme ça en face de toi qui est dans l'acting pur mais qui est totalement dans le personnage, je me dis ça doit faire quand même un drôle d'effet parce que ce mec là a un truc mais incroyable.
Incroyable. Dans ce film, il a un personnage très différent de ce qu'on a pu voir de lui. Ouais.
C'est fou, je veux dire.
Il est vilain, il est.
Cette dimension grotesque.
On savait que c'était un immense acteur, qu'il a pris une dimension phénoménale sous la caméra de Scorsese. Et là, mais. Je veux dire. Vraiment, je me suis dit, à un moment donné, j'étais sorti du film, je me suis dit, mais quand tu te retrouves à jouer une scène face à DiCaprio, putain, mais tu dois prendre une tarte monumentale, quoi. Ça doit être très compliqué de rester focus dans ce que tu as à défendre face à lui, quoi, tu vois. Et là, le voir avec De Niro, enfin.
C'est pas la première fois que je joue ensemble.
Non, hein, bien sûr, il y a eu Gilbert Grape, mais c'était aussi.
Non, c'était Blessure Secrète de Michael Caton-Jones.
Gilbert Grape, c'était quoi?
C'était avec Johnny Depp.
Johnny Depp, oui, pardon.
Et ils avaient rejoué en 98 dans un film de merde avec Meryl Streep, un truc oubliable, je sais plus comment ça s'appelle.
Là, c'est deux monstres sacrés, vraiment, qui sont au pinacle de leur.
Bah, disons que t'as les deux.
Qui sont dirigés par un grand cinéaste.
T'as les deux muses, la première muse de.
Ouais.
Ok, on pourrait mettre Harvey Keitel dedans. Mais t'as De Niro, qui voilà l'ancienne muse de.
Ouais, mais c'est deux acteurs fétiches.
Voilà, et son nouvel acteur fétiche, qui a pris depuis plusieurs années.
Donc il y a tout ça. Il y a tout ça qui, en tant que cinéphile, me galvanise énormément, si tu veux. Il y a tout ce qu'il faut pour que je sois vraiment à fond pendant tout le voyage. Malheureusement, cette histoire est passionnante. Tout est réuni pour que je sois vraiment dedans. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui est plus fort que moi aujourd'hui. Peut-être que c'est l'âge, parce que je vieillis, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est 3h30 où, à un moment donné, je décroche. Je me suis dit, tu vois, en sortant de ce film, je me suis dit, est-ce que ça méritait 3h30 ? C'est un épisode passionnant, comme tu l'as dit, Pierre, comme tu l'as rappelé, où j'ai appris des choses. Mais à un moment donné, y a l'expérience cinéma, si tu veux. Il y a l'expérience cinéma qui doit aussi primer sur tous ces éléments qui te procurent des sensations à l'ouverture du film. Et petit à petit, bah, ça chute tout doucement. Mm. Mais je reste en fait attentif au film. Je reste, tu vois, mais il y a quelque chose qui me dit, reste focus, reste concentré.
Ah ouais, d'accord.
Reste concentré sur ce que tu es en train de regarder, sur l'histoire que l'on est en train de te raconter. Pars pas ailleurs, reste avec nous. Et ça, quand j'ai cette petite sensation-là sur mon siège, dans une grande salle, il y a quelque chose comme ça qui commence déjà à déconner. Et je me dis que je suis en train de décrocher. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que je sais que je suis en train de passer à côté de quelque chose, sans doute, tu vois, mais... Oui, effectivement, je suis pas dans les meilleures conditions possibles parce que je suis mal foutu ce jour-là. Mais à l'arrivée, je me dis, est-ce que j'ai envie de revoir ce film ? Est-ce que chez moi, j'ai envie de me replonger pendant 3h30 dans ce film-là, précisément ?
Ouais.
Je suis pas sûr. Et c'est très bête, hein. Tu parlais d'Oppenheimer tout à l'heure. J'ai été extrêmement déçu d'Oppenheimer. Pour moi, c'était beaucoup de bruit pour rien. C'était la physique quantique pour les nuls. Je vois les parallèles avec JFK de Oliver Stone, les allers-retours dans la temporalité, les noirs et blancs sur le film de procès, etc. Mais Oppenheimer, je ne suis pas passionné par le sujet en vrai. Je trouve que le personnage d'Oppenheimer ne m'intéresse pas vraiment. Je trouve que c'est assez vain au final. Là,
c'est pas moi qui vais te contredire. Hein.
Là, j'ai des personnages qui m'intéressent plus. C'est plus à taille humaine. Ça me parle plus. Ça, c'est, j'allais dire vulgairement, c'est le cours d'histoire, mais avec le langage cinématographique de Scorsese, forcément, ça prend une autre dimension. Tout comme le langage cinématographique d'Oliver Stone prend une autre dimension à JFK. Mais il y a un moment donné, dans le film, je suis de moins en moins passionné par ce que je vois. Je suis de moins en moins réceptif. Et au final, je sors de la séance. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec Oppenheimer. Et c'est sans doute très maladroit, tu vois, parce qu'on est sur deux films sur du temps long avec beaucoup de langage, beaucoup de dialogue, beaucoup de personnages, beaucoup d'axes qui sont pris comme ça. Et je me suis refusé, en sortant de la salle, je me suis dit non, c'est la plus mauvaise comparaison que tu puisses faire. Et en sortant de la salle, il y a un groupe de mecs qui sortaient aussi de la même séance, qui disaient, et tout de suite j'ai entendu un type parler d'Oppenheimer, tu vois, tout de suite. Et je me suis dit, peut-être que dans le grand public, il y aura sans doute des gens qui feront cette comparaison. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure, hein, vraiment, moi en ce qui me concerne, Je fais cette comparaison, mais j'ai envie de me flageoler parce que c'est pas du tout les mêmes cinéastes derrière, c'est pas du tout les mêmes sensations, mais je peux pas m'empêcher de penser à Oppenheimer.
Tu vois, moi par exemple, la durée, je l'ai absolument. J'ai senti que c'était long, mais j'ai eu aucun problème avec ça.
Je pense qu'elle est là parce qu'on est sur une période quand même assez d'histoire longue, et je pense que c'est voulu qu'en fait tu ressentes cette durée. Pas parce que il veut t'ennuyer, mais parce qu'en fait il y a une pesanteur qui s'abat sur le personnage, qui s'abat sur cette communauté, que on veut te faire ressentir en fait, parce qu'il y a un immobilisme total pendant une très grosse partie du film. Encore une fois, c'est, je veux dire, on assiste pas au meurtre pendant pratiquement tout le film, en fait, on ne voit pas de meurtre. On ne les verra qu'à la fin pendant le procès. Et on ne les verra pas de la façon dont on voudrait les voir, en fait. Je pourrais revenir là-dessus un peu plus tard. C'est... On sait que la mort plane autour de ces gens-là. Il y a des gens qui disparaissent. Il y a des gens qu'on retrouve morts. Il y a des cadavres. On sait où sont les coupables. On sait qu'il y a... Ça pue, en fait. Il y a pas... Parce qu'on a beau parler de malédiction, des Amérindiens, tout ça. On sait très bien que tout ça, c'est des meurtres programmés.
Et eux-mêmes le savent.
Ils le savent. Ils cherchent le coupable. Ils le savent qu'on les tue. Personne ne les écoute. Tout le monde s'en fout d'eux. Et je pense que cette durée est là aussi pour te faire ressentir cet immobilisme qui va être pendant deux bonnes heures où, en fait, les responsables de... le personnage joué par De Niro, DiCaprio et toute sa clique et tous les intermédiaires qu'ils font, ils agissent en toute impunité. Et je pense que ce temps-là...
Et avec la complicité de toute la ville.
La complicité de toute la ville. Puisque on a des ils engagent des en plein jour devant tout le monde, ils engagent des mecs pour dire tu veux pas aller dire à machin d'aller faire sauter la maison.
Ouais, mais ça tu vois c'est les petites mains, mais ce qui est intéressant c'est la corruption du shérif, du banquier, de tout le monde.
Mais tu vois tout cela, mais ça se fait en plein jour, quand il discute avec le shérif, c'est dans pas dans son commissariat, mais enfin là où il travaille, quoi. Et c'est en plein jour les médecins qui vont tenter d'empoisonner Moni.
Molly. T'es intéressé par la thune aussi, tu appelles Moni.
Money.
Non, parce qu'il y a sa sœur qui c'est Mani.
Je sais plus comment elle s'appelle.
Je crois que il y a Molly et Mani. Je
me rappelle plus.
Et ces médecins-là qui, se cachent à peine, quoi, en fait. Tout est dans le sous-entendu, mais hyper grossier, de dire oui, bon, bah, en fait, on est là pour obéir au personnage de De Niro qui nous demande d'empoisonner un tel ou bidouiller le.
On va y revenir là-dessus, mais sur la durée, après. C'est comme...
Après, c'est selon chacun.
Plein de trucs, quoi. Tu rentres dedans, tu rentres pas dedans.
Moi, je trouve qu'elle est... La Porte du Paradis, 4 heures, j'ai aucun problème, en fait.
Bah, c'est un film un peu plus grand spectacle. Mais
je pense qu'il y a... Et je déteste...
C'est pas une question d'habitude aussi, tu vois.
Oui, mais... Irishman, 3h30, pour moi, ça passe tout seul, tu vois. Enfin,
alors que moi, j'ai eu plus de mal.
Quand on avait fait The Batman, on en avait parlé de la durée. C'était un film de 3 heures. Et même moi, tu vois, j'avais dit, je posais la même question que tu avais posée, est-ce que ça méritait de durer 3 heures,
Est-ce que ce film-là méritait de durer 3h30? Je ne suis pas sûr, et avec tout le respect que j'ai pour Scorsese, évidemment. Et encore une fois, je déteste ce ressenti que beaucoup de gens emploient, le ventre mou. Ce qui veut dire plein de choses et à la fois rien, en fait, en vrai. Mais je te disais tout à l'heure, à un moment donné, je décroche et j'ai un regain d'intérêt dans la deuxième partie, dans la dernière heure, en fait.
L'arrivée du FBI, peut-être.
Ouais. Ouais.
Alors voilà. Pour moi, il n'y a pas de ventre mou. Le film a des bons abdos, il a un ventre bien dur.
Il est gainé
pendant tout le truc. Non, moi, je me suis vraiment pas du tout ennuyé. Le film m'a passionné, je le trouve incroyable. Peut-être qu'on peut couper des choses, peut-être qu'aussi il a pris son temps, parce que il y a un côté vraiment, comme je disais, immersif et en même temps hommage au Sage. On sait qu'il les a consultés, il avait justement des experts, des membres de la tribu, il allait rencontrer un chef principal, il a négocié avec eux, il a voulu tourner avec eux, etc. Donc il y a peut-être aussi une manière de prendre son temps avec eux, avec leur culture, avec leur tradition, pour rendre un hommage qu'ils n'ont jamais eu. Peut-être
la voix du peuple amérindien là-dedans, elle est nickel.
Peut-être que ça a rajouté aussi sur la durée, c'est possible.
Je pense qu'il y a l'idée aussi de vouloir marquer le coup, en fait, c'est un épisode qu'on n'a jamais parlé, il faut leur donner de la place, il faut que ça compte, en fait. Donc on peut expliquer cette durée par là. Oui, peut-être que... Bah, d'ailleurs, lui-même le dit, parce que il s'est revendiqué d'un cinéaste que tu aimes beaucoup, Thomas, de Harry Astor, en disant qu'il avait, il avait essayé de calquer...
Non, il ne s'est pas revendiqué. Il a dit qu'il avait... était intéressé par la manière dont il...
Mais il avait essayé de calquer un peu son
J'aimerais
rythme.
J'aimerais bien boire une bière avec ce mec-là.
Il avait essayé de calquer un peu son rythme. Enfin, calquer. Il s'est inspiré un peu du rythme de Midsommar et de Boys Afraid.
Et qu'il aimait bien sa lenteur.
Il est conscient qu'il y a des scènes qui, narrativement, ne servent à, entre guillemets, à rien. Et c'est vrai. Il y a des scènes que, bien évidemment, je pense qu'en termes d'intrigue pure, de narration pure, tu peux retirer plein de choses. Mais il s'est senti... il a eu le désir de garder des choses, je pense, pour justement ne peut-être pas trop simplifier le film, en fait. Peut-être trop
de le charpenter dans la super efficacité sur un sujet pareil.
Bien sûr, je pense... Non, mais... Je ne remets pas du tout en cause les intentions de Monsieur Scorsese, évidemment. Mais.
Oui, bah, t'as trouvé ça long.
On essaye de convaincre de lui redonner une chance. Mais...
je te dis ça, je l'ai vu il y a deux jours.
Ouais, oui.
Peut-être que, comme toi, ça va me travailler. Je vais y repenser. Est-ce que quand il sera disponible en vidéo, je voudrais me retenter l'expérience. Je n'en sais absolument rien. Peut-être que mon avis aura changé parce que
c'est possible.
Tu vois, contrairement à un Nolan que j'apprécie par ailleurs sur certains de ses films et que je sais je ne reverrai pas, celui-là, je me pose des questions. Est-ce que vraiment j'ai envie de me retenter le voyage? Je n'en sais absolument rien. Parce que c'est Scorsese. Et c'est, voilà, ça reste quand même du très très haut niveau. On peut pas l'exclure, évidemment.
Comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même un côté chef-d'œuvre dans le sens où il travaille.
Et ça m'ennuie, de mettre dans la même phrase Scorsese et Nolan. Hein,
oui. chef-d'œuvre, travail d'orfèvre, tout le monde est au sommet de son art, je trouve, sur ce film. La moindre performance est formidable, mais tous les seconds rôles, le souci du détail. Il y a peu de cinéastes aujourd'hui qui arrivent déjà à te faire voyager dans le passé. Je trouve que quand tu es dans cet univers, tu te poses pas une question, ça fait pas fake, ça marche tout de suite. La reconstitution est incroyable, les acteurs, les gueules, la dentition de DiCaprio, qui est toute dégueulasse. Il fait une espèce de travail autour de sa bouche là. Il est presque, il est grotesque.
Même
il est
de son regard. Ouais.
Ouais, ouais.
Ah oui, non, mais en plus c'est un personnage qui se fait humilier avec la, il se prend une fessée.
Ouais, alors ça c'est intéressant parce que pareil, faut qu'on reparle du personnage de De Niro, on peut peut-être aller là-dessus, mais ce que j'ai bien aimé avec ce moment, c'est que déjà tu vois comme il est infantilisé, c'est ça en fait.
Il est infantilisé
à mort, c'est un gosse dans les mains de ce patriarche, parce que le film parlera aussi de ça, de la mainmise. C'est pas juste des blancs, c'est des hommes blancs, enfin il y a un côté... En fait, le film fait écho aussi à énormément de réflexions modernes, notamment sur le patriarcat. Enfin, bref, on y reviendra. Et ce que j'ai bien aimé, je me suis longtemps questionné sur cette histoire des francs-maçons, parce que je me dis, c'est étonnant, pourquoi ça? Et en fait, du coup, Robert De Niro, finalement, 37e génération de francs-maçons, franc-maçonnerie en plus, qui est quelque chose qui vient d'Europe. En fait, du coup, il y a un côté, ça dépasse le simple cas de l'opportuniste de ces colons qui viennent essayer de soutirer la thune aux natifs. Là, on remonte à quelque chose d'autre, tu vois. Ça fait presque complot très ancien et donc domination qui très ancienne d'une population sur le reste du monde.
Mais une domination qui ne dit pas son nom, en fait. Dit pas son nom parce que, bien évidemment...
C'est occulte.
Non, mais même, tu vois, on pourrait se dire...
Dans l'imaginaire collectif des francs-maçons...
Sachant que c'est pas du tout le cœur du film, c'est juste un détail à un moment.
Mais ça en dit long.
Mais qui, finalement, amène au personnage de Niro, qui reste assez mystérieux, quand même. Une espèce de dimension autre.
Oui, mais encore une fois, qui est d'une ambiguïté totale, parce qu'en fait, tu comprends très bien que c'est lui le mal... directement dès la première conversation où il parlait à DiCaprio qui lui demande est-ce que t'aimes les femmes, est-ce que t'aimes le rouge, et tu vois, tu comprends très bien, il fait genre ouais tu devrais aller voir un tel et tout.
De ce que j'ai cru comprendre, quand tu intègres la franc-maçonnerie, tu passes par un type d'entretien assez similaire. C'est ce qu'on m'a rapporté, c'est ce que j'ai lu en tout cas, c'est que tu passes par une sorte d'entretien très intrusif, très pour vraiment cerner ta psychologie, pour vraiment cerner qui tu es. Est-ce que voilà. Alors
Ah, peut-être. Hein.
Je m'avance un petit peu, peut-être. Hein. Peut-être que je dis une énormité, mais c'est en tout cas des choses que j'avais déjà entendues.
Une de plus.
C'est en tout cas des choses que j'avais entendues au sujet de la franc-maçonnerie.
Mais non, mais tu vois, quand il parle de... Tu comprends automatiquement, immédiatement que... C'est la tête pensante et que c'est, il est le coupable, c'est le grand méchant du film, mais en même temps lui se pose direct comme
Denis Rousse, c'est le Grand Orient.
Non mais son personnage est quand même terrible, hein. il est incroyable dans ce film.
Non mais en plus il se pose comme un ami des Osage. Ouais. Il le dit, il fait des trucs.
Ouais, grand philanthrope.
Il parle leur langue, il a appris leur culture. Et alors tu peux dire c'est un blanc, c'est un raciste. Mais le racisme dans le film n'est jamais cité, en fait.
Si, quand même, plusieurs reprises.
À plusieurs petites touches, pas par rapport forcément à De Niro. Mais c'est pas forcément le... parce que comme il explique, tu vois, c'est que genre, il faut pas que l'argent se perde, en fait. Il faut pas qu'il se perde. Il faut qu'il reste dans la famille. Ouais. Donc, c'est juste, en fait, c'est surtout de l'avarice. Je pense que c'est vraiment l'avidité.
C'est pas pour rien qu'on l'appelle King et que tout ce qu'il veut, c'est la thune. L'argent est roi, l'avidité pure.
Il veut l'argent,
quoi.
C'est juste... par exemple, il y a les parents du personnage de DiCaprio qui, à un moment, font un commentaire sur les enfants de DiCaprio parce que y en a un qui est un peu plus.
Qui est métis,
un peu métis, plus, ouais. Un peu plus. Enfin, un peu plus.
Bon, métissage
un peu plus voyant que la gamine. Et là, t'as du racisme. Et à un moment, ils se battent et dans la maison, et t'as la mère qui crie sauvage. Et je pense pas qu'elle parle à son fils. Mais lui, en tant que personnage, c'est pas comme on voit dans les films comme Green Book ou ce genre de films, les figures de l'ombre.
Le racisme n'est pas sa motivation.
Oui, mais c'est pas le racisme beuglant et qui te montre que regarde, on est des gros méchants, on est des gros racistes. Tout est insidieux, en fait. Tous ses agissements à lui sont tu les vois venir, mais en même temps, tu peux pas dire l'enfoiré de raciste, en fait.
En fait, son racisme. Et plutôt sur sa considération.
Sa considération de...
Pour qui, en fait.
C'est plus subtil.
C'est rien, c'est une donnée dans son plan. Il n'a aucune considération. Il le dit à un moment, de toute façon, tu sais, ils ne vivent pas vieux, ils sont tous condamnés, on s'en fout.
On trouve plein d'excuses. Mais c'est jamais un racisme qui est ouvertement, où il n'y a pas le mot racisme pour te plaquer sur l'écran.
Contrairement à certains, tu sais, t'as le mec, tu sais, à chaque fois, ils ont une remarque antisémite quand l'autre est un peu radin.
Toi, t'es injuste.
Oui, en fait, il dissémine le racisme de ces Européens, colons européens, par petites touches, quand par moment, il dit « tu te marierais avec elle ». Donc, est-ce que sa race te pose un problème? Tu vois, donc, il le dissémine comme ça. Mais c'est vrai que le personnage de Niro... Et c'est là où je voulais revenir sur une thématique. Bon, c'est la thématique scorsésienne. On sait que ces films sont très souvent baignés de ses propres démons. Et de son éducation religieuse catholique italo-américaine papiste, qui est très importante. On sait que tout le monde l'a lu, vu, qu'il a voulu être prêtre à un moment. Il a réalisé La Passion du Christ. Enfin bon, bref.
La dernière tentation.
Attention.
Non, pardon. Excuse-moi, Mel Gibson.
Il aurait pu.
C'est pas vraiment le même film. Hein,
Lapsus révélateur. ça aurait été quelque chose. Ouais. Donc. La thématique religieuse...
Avec un Christ incarné par Ray Liotta, tu sais, qui arrive en plan séquence...
ça aurait été énorme.
dans Rome.
Avec du rock.
Ouais, avec du rock, évidemment.
Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être prophète.
Ça aurait été énorme. Où les chrétiens sont un peu des gangsters et tout. Ouais. Donc, ça désamorce tout mon propos, qui était sérieux. Les thématiques sont quand même là, tu vois, déjà le personnage de Niro, franchement, c'est le diable là-dedans. C'est dans sa manière de tordre la réalité.
Ouais, parce qu'il est séduisant aussi.
Il est hyper séduisant, enfin voilà, c'est...
Puis De Niro, il est impeccable, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu...
Et t'as l'impression qu'il joue ce personnage sans le moindre effort, en fait, comme ça. Bon, c'est un monsieur d'un certain âge et une autre expérience, mais voilà, lui, c'est vraiment le diable. Il y a ce moment qui est saisissant où, en fait... DiCaprio est face aux portes de l'enfer là, quand il est enfermé chez lui et qu'il y a cet incendie. Il brûle la terre pour renouveler le sol, mais il se retrouve entouré de ces flammes et de ces silhouettes. Je sais pas si tu te souviens de ce moment. Là, on est dans la pure représentation infernale. Et d'ailleurs, DiCaprio est un personnage auquel Scorsese donne une porte de sortie, non pas juridique, il sera condamné quoi qu'il arrive à la fin, mais il lui donne l'occasion de sauver son âme à un moment, ce que DiCaprio ne fait pas quand Lily Gladstone lui demande de révéler toute la vérité. Il y a une vérité que DiCaprio ne refusera toujours d'admettre, c'est qu'il a participé à l'assassinat qui n'aboutira pas de sa femme en l'empoisonnant. Ouais. Voilà. C'est le moment où, d'ailleurs, où la lumière, la dernière lueur d'amour qu'elle pouvait avoir dans ses yeux pour lui s'éteint et où elle se lève et elle sort. Sans un mot. Voilà. C'est le moment où il pouvait racheter son âme au moins à la fin. Donc je trouve qu'il y a quand même cette dimension qui est là. Et il y a un truc qui m'intéresse. Alors, je pense qu'on ne pourra pas résoudre cette question en en parlant aujourd'hui parce que ça demanderait de revoir le film, de se documenter. Mais il y a un truc qui est intéressant chez Scorsese, c'est tout ce qu'il projette de lui-même dans ses personnages et ce qu'il raconte de sa propre vie. Tu vois, Les Affranchis, c'est aussi l'enfance de Scorsese dans ses quartiers, Little Italy, son admiration pour les gangsters quand il était enfant, toute sa passion voilà, pour aussi pour la religion, tout, je veux dire, même After Hours, qui est un film assez dément sur les errances d'un personnage de la nuit dans New York. Enfin, voilà, il y met toujours énormément de lui-même. Je me demande ce qu'il a mis de lui-même dans ce film, parce que moi je me rappelle avoir vu une interview de lui il y a plusieurs années où il racontait juste avant Raging Bull l'épisode où il a failli mourir d'une overdose, Martin Scorsese, et il me semble avoir lu ou entendu qu'il avait que la drogue et l'excès de cocaïne et tout ça lui avait perforé les intestins ou l'estomac. Et la condition physique, qui finalement est pas si utile que ça à l'intrigue de DiCaprio quand il rentre, alors c'est historique, mais c'est quand même marrant que son problème, lui, qui l'affecte, c'est une perforation au ventre, lui aussi.
Pas une bonne.
Dans ce côté, pactisé avec le diable pour atteindre la richesse.
Bah, je pense qu'on peut avoir une lecture du film par rapport à l'industrie hollywoodienne. En
voilà,
fait.
C'est là où je voulais en venir. Ouais. Et y a, je pense qu'il y a une seconde lecture qu'il faudra... C'est... Pour moi, en tout cas, je ne suis pas capable.
Bah, c'est comment
tôt,
tu, mais... en tant qu'artiste naïf, tu te fais alpaguer par cette... Ouais. Par le glamour hollywoodien d'Hollywood et comment tu en viens à faire des choses que tu ne veux pas faire, comment que tu réprouves mais que tu fais quand même, que tu acceptes de par lesquelles
tu vends ton âme au diable,
tu vends ton âme au diable, voilà.
Simplement. Et donc dans cette manière qu'a le personnage d'aller de l'avant dans sa recherche de richesse, de confort, de reconnaissance, et en même temps qu'un véritable amour, finalement, à un moment, on a l'impression que c'est bien ça, véritablement pour sa femme et ses enfants. Il y a des scènes déchirantes qui...
Après, qui continue à l'empoisonner.
Est-ce
qu'il faut essayer de trouver du Scorsese dans chacun de ses derniers films, dans ses
dernières
années?
Irishman, tu peux pas. Et Silence, c'est son projet, un de ses projets phares sur la religion.
Oui, mais peut-être que. Alors, Irishman, ok, pour peut-être le temps qui passe, justement, tout doucement, tu te rapproches de la mort. Hein. Donc, voilà.
Et puis conclure son cycle de films de gangster.
Ouais, Silence. Silence, il y a le rapport à la
religion.
À la religion, les chrétiens persécutés. Là, dans celui-là, peut-être la rédemption, j'en sais rien.
Non, mais je suis pas capable d'y répondre aujourd'hui.
Pour moi, c'est le désenchantement, en fait. Désenchantement. Ouais. Même s'il y a une petite lueur d'espoir à la fin, on en reviendra dessus. Mais c'est un film qui est parcouru par le désenchantement, en fait. Où tu vois qu'en fait, cette course à l'argent qui mène à la destruction, et ça en devient non-sensique, en fait. Plus ça va, en fait. Tu dis, mais en fait, t'avais besoin de faire exploser la maison avec, parce qu'il y avait la femme dedans, et plus ça va, et puis en fait, ils amènent l'attention sur eux, tu vois. Il y a le coup du suicide avec le mec qui se fait flinguer derrière, et tu dis il a pas laissé le flingue et tout, et déjà rien que là il devrait se dire oh, il faut calmer le jeu, il faut s'arrêter, et non, tu fais sauter la maison après de la sœur à Molly et tout, et ça fait encore plus de bruit, ça apporte encore plus d'attention
sur l'argent, même c'est sous-entendu, même le FBI qui accepte à un moment de venir enquêter se bouge. Parce que, en fait, le clan a fait une donation, le clan Osage a fait une donation de 20 000 dollars au gouvernement américain.
Et que Molly va à Washington pour interpeller le gouverneur ou je ne sais plus quelle politique. D'ailleurs, elle lui balance « Ouais, on est en train de nous tuer et tout. » Le mec, il fait « Bon, merci pour votre
soutien.
Allez, au revoir. Merci d'être venu. » Et moi, je pense que c'est vraiment cette vision désenchantée de l'Amérique, en fait.
Pour moi, c'est clairement le côté phase de Gangs of New York, en fait. La construction de l'Amérique dans la violence, c'est quelque chose qui est qu'on n'avait plus revu depuis, depuis ce film-là dans sa filmo, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Deux tribus qui s'affrontent, voire dans Gangs of New York,
c'est des clans, c'est des, y a
c'est des clans, voilà.
Mais là, c'est aussi un film de gangster presque. Hein, c'est...
Ouais, mais clairement, voilà.
Mais ça n'en est pas vraiment. Hein,
non, tu vois, c'est multigenre, le film est passionnant là-dessus.
Mais j'ai tout de suite pensé à Gangs of New York en fait aussi.
Ouais. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé, ouais. Mais
il y a un truc que j'ai lu parce que je trouve que la photo est admirable, le film est très très beau, il est tourné sur de la pellicule Kodak, il est pas pour sa majeure partie.
Photo de Rodrigo Prieto.
Et Rodrigo Prieto, c'est mexicain. Un directeur de la photo mexicain, voilà, qui est un peu une star en ce moment. Il est un peu partout. Je crois que c'est lui le directeur de la photo de Barbie, il me semble. Tu vois.
Ah ouais,
ouais, ouais.
Bah, c'est vrai que Scorsese avait l'habitude de collaborer avec Bob Richardson, c'est ça?
Mais non, mais sur les derniers, je crois que c'est lui. Hein,
ah ouais, sur les derniers aussi. Sur Silence, ouais, Irishman aussi. Sur derniers,
il me semble que c'est lui depuis un moment. Je sais plus, j'avais pris des notes et puis voilà, je les ai pas, donc bravo.
Bravo.
Mais c'est vrai que ce mec, on le voit beaucoup et j'ai lu une interview de lui, donc, parce que je voulais en savoir plus sur la pellicule, le format, ce qu'il avait fait, etc. Dans quelles conditions ils avaient filmé. Et il y avait un truc qu'il disait qui était assez intéressant, c'est que tout de suite avec Scorsese, ils ont eu une volonté déjà de véracité dans l'image. Ils sont allés regarder. Tout ce qui pouvait être produit visuellement à cette époque, avant les années 20, en termes de... Bon, évidemment, tu as accès à des archives en noir et blanc, mais de ce qu'on pouvait retrouver sur le type de teinte, les couleurs, que ce soit dans l'art, la peinture, enfin peu importe. Donc, ils ont un soin très particulier. Ils ont développé même un outil spécifique pour la couleur dans ce film. Et il y a un traitement de la couleur qui est différent entre les blancs et les natifs. C'est ça que je trouvais chouette. Et que tu perçois à un niveau inconscient quand tu regardes le film, c'est que la seule couleur qui est réellement désaturée quand tu es dans l'univers des blancs, c'est le vert. C'est-à-dire qu'on coupe la connexion à la nature, ne serait-ce que visuellement, dans les décors, dans leurs costumes, dans leurs maisons, dans tout leur environnement, le vert est la seule couleur qui est totalement désaturée, ce qui n'est pas le cas des natifs qui sont dans un univers colorimétrique autre. Et en fait... À plein de niveaux, sur la musique, sur les percussions, sur tout ça, à plein de niveaux, ce film est je trouve dans un état d'immersion et de véracité qui est assez extraordinaire.
Ouais, la musique de Robbie Robertson,
qui est décédé juste après le film.
En août, août dernier. Bah, le film lui rend hommage, guitariste de The Band.
Ouais.
Et qui fait une musique alors là que je rapprocherais de There Will Be Blood. Alors je sais qu'on le comparatif
avec There Will Be Blood,
mais t'as raison de parler de ce film.
C'est que moi j'ai déjà entendu le comparatif entre les deux films parce que ça se passe sur une période un peu similaire et puis il y a le pétrole en fond, en décor de fond. Moi je trouve que les films sont totalement différents et je trouve que les comparer en fait c'est mésestimer l'un et l'autre en fait. Je trouve que comme tu disais, moi je le rapproche plus de la porte du paradis.
Bien évidemment.
Qui est un désenchantement qui est une révélation en fait du mensonge américain.
Si vous l'avez pas vu, les amis, c'est l'un des plus grands westerns jamais produit. Hein.
Non, puis dans ce côté immense, je trouve que There Will Be Blood n'a pas. J'adore Anderson.
Ah non, mais c'est super comme film.
Mais n'a pas cette dimension. Il y a un truc grand cinéma que n'a pas. Pour moi.
Mais même les thématiques pour moi sont différentes. Ça raconte pas du tout la même chose. Et le personnage de joué par Daniel Day-Lewis,
Plainview, c'est ça?
Je me rappelle plus. Ça n'a rien à voir avec les personnages du film de Scorsese.
Mais dans la musique, cette
musique un peu sourde, un peu qui est là un peu en guet-apens, en quelque sorte, et qui est toujours qui traduit un peu une menace, qui est toujours là en fait. Et qui est très discrète. Après, je ne sais pas ce que ça donnerait à l'écoute tout seul, mais
contrairement à Hans Zimmer. Oppenheimer. Excusez-moi.
Et autre genre.
C'était Zimmer. Non, c'était Ludwig Göransson.
Même
école.
Comme quoi.
Même école. Ouais.
Même école.
Si j'aime. Enfin, bon, Ludwig Göransson, je crois qu'il fait des trucs intéressants parfois.
C'est pas le sujet.
Excusez-moi.
Mais ouais, non, mais il y a cette musique vraiment. Dans The Killers.
Ouais, mais avec de temps en temps une.
Avec des poussées.
Une fulgurance rock'n'roll.
C'est Scorsese.
C'est tribal, il y a du blues, il y a des notes d'harmonica derrière, tu vois. Enfin, c'est effectivement quelque chose qui est comme ça, qui enveloppe le film. Et
qui presque des fois.
En sourdine, très loin.
Mais je pense qu'il des fois traduit un peu la mentalité de DiCaprio, en fait, du personnage d'Ernest, en fait, qui. Il, ça cogite à l'intérieur et il faut qu'il se positionne, il faut qu'il fasse des choix. Mais
ça
en fait,
cogite en même temps.
Et
pas tant que ça, parce que le mec, c'est quand même un imbécile.
Ah non, c'est un imbécile. Mais c'est un imbécile. Non, mais il y a un truc qui le travaille. Je pense que cette musique, c'est un peu le travail qu'il y a dans la tête d'Ernest. Et de. C'est toujours un peu monocorde. C'est toujours un peu monocorde parce que il peut être actif, le personnage, mais il est moralement, il est très passif en fait. Il n'ose pas défier son oncle, mais en même
pas
temps
toujours bien. Bah, c'est ça, mais il fait toujours répéter, il répète ce qu'on lui dit comme un idiot. Quoi.
Ouais, comme un idiot.
Mais c'est pour ça que ça dure 3h30. Voilà, si tu fais répéter les phrases.
Bah voilà, c'est parce que DiCaprio il est lent, c'est
il
tout.
Il est con sur ce il est con.
Il est humilié. Et quand il doit prendre des décisions, il peut revenir en arrière, comme tu disais dans la décision. Là où il peut être sauvé, son âme peut être sauvée et qui dit non, finalement je vais pas le faire.
C'est terrible sur la mort de sa fille.
Du spoil, attention là, Pierre.
Ouais, on spoil
tout,
tout
le temps à chaque fois.
Bon,
ok, d'accord.
Il a d'autres enfants, ça va.
dit-il.
Non, mais le personnage il se retrouve au sein d'un truc ignoble et lui-même
va en souffrir
complètement. Il va en souffrir terriblement. Bien sûr, sa souffrance n'est rien comparé à celle des Osage, mais le personnage traverse plusieurs états et en fait, c'est ça. Il fait un pacte avec le diable et à l'occasion de sauver son âme ou pas.
Tu vois, comme je te dis, c'est un film sur l'avidité parce qu'à un moment, il essaie de faire une arnaque à l'assurance alors qu'il gagne très bien sa vie. Il a épousé son épouse, là, il est à l'abri du besoin et on veut faire appel à un mec pour jouer encore les intermédiaires.
Il y a Blackie, le tueur,
que
je trouve super, il a une gueule.
Non, Blackie, c'est celui-là qui il demande à lui voler sa voiture.
Ouais.
Et lui, c'est pas vraiment un assassin, lui, c'est encore un intermédiaire en fait, il fait le pont.
C'est l'homme de main de King.
Blackie, il est censé buter.
À un moment, je crois que.
Je sais plus, mais les neutrons, lui.
Et le mec, il dit tiens, je dois lui donner une mission et tiens, je vais lui demander de voler ma voiture pour que je gagne l'argent de l'assurance de ma voiture. Alors qu'il c'est pas du tout le moment, il en a pas besoin. Et en plus, il est rapia parce que tu sais, quand il est confronté à lui, il les laisse tout seul dans les bureaux du FBI. Ouais. Il lui fait tu m'avais promis $20 pour ce boulot-là et tu m'as donné $1.50. Ouais. Non, c'est pas vrai. Le mec, et après, tu sais, genre, le mec, il fait non, mais je t'avais promis $20, mais j'ai pas pu le donner. Non, je crois que je t'avais pas donné de. Je crois que je te l'ai donné.
C'est assez important de dire ça parce que il y a des moments de respiration où
il y a pas mal d'humour.
Il y a de l'humour, quand même. Et effectivement, il y a des espèces d'échanges de dialogues comme ça qui sont très surprenants.
Il y a des moments très drôles.
Il y a des moments très drôles.
Parce que t'as des intermédiaires, c'est des mecs de la terre là. Enfin,
j'adore le gars qui a un œil en moins.
Qui a un œil en moins, oui.
Je sais pas où ils l'ont trouvé, lui. Il est incroyable.
Et pareil, tu vois, c'est juste un intermédiaire et le mec il lui dit tu vas lui donner machin. Oh, je sais loin et tout. Tu m'as pas donné beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, les mecs sont jamais régis par leur morale en fait pour dire non, j'ai pas envie de faire ça, c'est pas bien. C'est juste en fait. Moi, tu me donnes combien en fait? Qu'est-ce que j'ai gagné?
Il va voir un héros local qui est le champion de rodéo. Qui est, je me demande si c'est pas lui qui est interprété par Sturgill Simpson, ce chanteur américain qu'on voit partout dans les westerns maintenant. Là.
Ah, c'est possible.
Qui est, tu sais, genre le beau américain Stetson.
Qui fait de l'alcool frelaté là.
Héros, qui fait du moonshine, je crois. Héros de rodéo, qui est dans les coupures de presse locales, etc. Et en fait, le mec est lui aussi une crapule, un assassin et un gars que t'achètes comme ça, quoi.
Ouais.
Donc, voilà, c'est l'Amérique désenchantée. Ouais.
Bah oui, non, mais c'est ça. C'est une image d'une. Une symbolique du capitalisme américain qui est. Qui est impitoyable en fait.
Que tu pourrais en plus étendre, c'est assez universel, moi je trouve. Je pense que
beaucoup
de populations peuvent se retrouver là-dedans. Tu le transposeras en Australie, tu le transposeras.
Mais bon, tu vois, c'est pas pour rien qu'il a voulu faire un western avec cette histoire.
Bien sûr. Et même ce basculement où tu montres les Blancs à un moment où ils immigraient eux-mêmes et ce à quoi ils étaient prêts pour atteindre, pour avoir de l'argent, pour machin, c'est.
Ouais, puis il y a cette scène qui est vachement, qui est vachement drôle, c'est quand DiCaprio, il a été arrêté, il va témoigner, et en fait son l'avocat de Robert De Niro demande, qui est joué par Brendan Fraser, qui fait une petite apparition dans le film.
Brendan Fraser.
Il arrive à convaincre le juge de le laisser s'entretenir avec son client. Donc en fait, il sort de prison et il va dans
la baraque, le clan,
et ils sont tous là et ils sont tous en noir. C'est un truc mortuaire et t'as l'impression que bah, c'est une mafia en fait.
Et le mec l'appelle boy déjà, je crois qu'il l'appelle gamin. Quoi. Ouais.
Et y a John Lithgow aussi.
Il y a John Lithgow qui joue l'avocat, qui joue l'avocat la défense.
Par contre la défense.
Ouais.
Il y a John Lithgow qui fait une apparition.
Un petit rôle,
ouais. Non, il y a plein de gueules super dans ce film. Et ce moment, et c'est là où ils sont tous complices. Parce que ces médecins, c'est des assassins. C'est des frais assassins qui empoisonnent ces employés. Tous, le shérif, le banquier, toute la ville.
Qui découpe la sœur de...
En morceaux, ouais. En morceaux, juste pour pas la balle.
Genre, mais pourquoi vous l'avez fait sur place?
Et une espèce de, et c'est ça, une espèce de
d'impunité
totale et en même temps d'absence totale de conscience, de remords, comme quand il y a ce tueur qui va à la banque, il dit ouais j'ai adopté des enfants au Sage, si jamais ils venaient à mourir, est-ce que
il est terrible.
Ah ouais, c'est terrible.
Non, il dit non voilà, il dit pas tout de suite qu'ils sont au Sage, il dit si jamais ils venaient à mourir, ouais ben bah, ils sont au Sage en fait. Et t'as le banquier.
Excusez-moi, mais là j'ai l'impression
que vous allez tuer vos enfants pour toucher.
Il fait bah ça dépend si je peux toucher les.
Il reste très sérieux.
Il reste sérieux. Il dit bah tuer mes enfants, ça dépend si je touche quelque chose ou pas.
Bah, oui.
Non mais c'est totalement ma boule. Et en fait c'est un truc.
Un bon père.
On te montre jamais ça. Enfin on te montre jamais. C'est rare de voir ça au cinéma. Et donc ce moment ils sont tous là, cette complicité de la ville qui est face. Alors j'aime bien aussi cette équipe d'enquêteurs du FBI. C'est comment dire.
Les G-Men.
Proto enquêteurs du FBI
les
qui viennent.
G-Men avant les G-Men, quoi.
Voilà, donc qui sont menés par Jesse Plemons, qui devait interpréter le personnage d'Ernest, apparemment. Si
ouais,
j'ai...
je crois que c'est ça. Ouais.
Dans les versions.
Enfin, en tout cas, c'est son personnage, ça devait être DiCaprio dans la première version du scénario.
Qui, lui, est une espèce de. Comment dire. De force tranquille qui ne s'énerve jamais. Et qui va d'un coupable à l'autre.
Alors qu'ils se font balader pendant.
Ils se font balader, mais. Et c'était, tu vois, que ça travaille lentement.
Ouais, bah,
et
l'enquête, ouais, elle avance. L'enquête, tu la vois pas avancer, en fait.
Ouais,
l'enquête.
J'aime bien ce moment.
Attends, mais dans quel film il avait un rôle assez similaire, comme ça, d'homme de loi Merde. Parce qu'il m'a fait penser à un rôle qu'il joue, où justement, il feint d'être pris pour un con, mais qu'il est. Très lucide sur qui il a en face de lui.
Je sais pas, là, sur le coup.
Bref, ça va me revenir.
Ouais, j'ai un trou.
C'est un chouette acteur, hein, Jesse Plemons. Ouais. Il est cool. Et c'est marrant, c'est qu'il est beaucoup plus jeune que DiCaprio, mais il, joue... mais il l'appelle Son et il joue un mec plus vieux. Et ça marche très bien, tu te poses pas une seule fois la question, en fait. Hein.
Ouais,
DiCaprio a quelque chose de. À tes souhaits.
Merci.
DiCaprio a quelque chose d'adolescent attardé dans ce film et t'y crois totalement, alors que le mec a genre 50 balais. Ça marche hyper bien.
Il fait la guerre et tout.
Incroyable. J'insiste là-dessus, ce mec il dégage une puissance de feu, mais ça va être.
DiCaprio et De Niro sont.
Dans les années à venir encore, il va encore gagner.
Oui. Si, il a des bons rôles. Hein. Mais DiCaprio et De Niro sont extraordinaires. Je trouve que Lily Gladstone dedans, elle est superbe. Quoi.
Ah, elle a une.
Elle a une espèce de présence à l'image. Sobre.
Et de fierté.
Et en même temps, tout passe. Ces émotions, le moment où elle est malade, c'est terrible. Je trouve qu'elle a un rôle. En fait, là, tous les personnages principaux, là, ils sont tous.
Mais c'est surtout quand elle contrebalance avec justement la bêtise de son mec, de son mari.
Ouais.
Quand elle est impassible, elle a le regard comme ça, très posé sur lui. Et tu sens que c'est elle, finalement, qui drive tout. Et c'est une récurrente, d'ailleurs, chez les films, chez Scorsese, les rôles féminins qui sont. Hyper fort sans forcément les poser sur la table, si j'ose dire. Enfin, tu vois.
Et puis elle est libre, fière, intelligente, qui, si j'ai bien compris, dans l'histoire réelle, elle est beaucoup plus âgée ou au minimum 10 ans de plus que le personnage d'Ernest. Donc c'était peut-être dans l'intrigue principale. Réelle, une femme d'un
certain
plus âgée qui se dit peut-être je trouverai pas, je sais pas. À un moment aussi, tu as des discussions, pareil, tu vois pas trop ça dans le cinéma habituellement, mais. Entre ces femmes qui parlent donc leur propre langue et qui parlent de ce qu'elles voient chez les Blancs. Tu as dit, quand même, on sait pourquoi ils viennent. Mais
c'est ça.
Physiquement, ils aiment bien les yeux bleus. Non, mais tu sais, puis elle leur donne des noms d'animaux. Ouais. Là, c'est assez marrant
ce moment. Elle est dupe de rien. Et c'est ça qui est, moi, je trouve vraiment passionnant, la partie où elle est empoisonnée avec l'insuline.
C'est terrible ce moment.
Et en fait, on a l'impression qu'elle sait qu'elle est en train de se faire empoisonner, parce que déjà elle demande à ce que les médecins ne soit pas, ça soit plus eux qui lui injectent.
Mais elle le soupçonne pas de lui tout de suite.
Mais elle le soupçonne pas son mari. Mais en même temps, on peut se poser la question, parce que on se dit mais comment tu elle est consciente de absolument tout ce qui se passe. Elle sait pourquoi on épouse ses sœurs, pourquoi DiCaprio veut l'épouser. Elle sait qu'elle est méprisée par les blancs quand elle va sur le quai.
D'ailleurs, la ville se blanchit au fur et à mesure. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Tu vois de moins en moins de natifs. Et il y a un moment, quand ils remarchent devant le train, il n'y a plus que des blancs qui la regardent comme une étrangère, quoi, alors qu'elle est chez elle.
C'est elle qui prend l'initiative d'aller à Washington pour prévenir en nous disant on est en train de nous assassiner, faites quelque chose. Et finalement, parce que c'est son mari quand même, parce que je pense qu'elle l'aime, elle accepte de se voiler la face et de ne pas voir qu'en fait il est en train de l'empoisonner.
C'est ce que je me suis dit, c'est je pense qu'elle laissait de croire à l'amour jusqu'au bout et jusqu'au moment où c'est
mais voilà, mais c'est dans ces petites zones de flou que je trouve que le film a vraiment un très grand intérêt en fait. Parce qu'on peut y apposer ce qu'on a envie de voir quoi. Et je sais pas si on va conclure. Mais je voulais revenir sur la toute fin, le show radio où il y a Scorsese qui apparaît.
J'adore cette scène.
Mais le final est hyper inattendu là aussi.
Il fait un podcast en live, le mec.
Ouais. Il fait un podcast, mais c'est surtout qu'il te montre en fait, voilà, c'est ce que vous auriez aimé voir. Cette histoire, vous auriez aimé la voir de cette façon. On vous raconte l'enquête, on vous raconte qu'un tel va être allé en prison.
Il y a un côté sensationnel, des bruitages.
Il faut
expliquer bien ce qui se passe au cas où. De toute façon, on spoil la mort, donc vous êtes censé l'avoir vu. Mais le film ne te montre pas la fin du film. Mmh. Il te montre une reconstitution de la fin du film dans un show radiophonique.
Ouais. Avec du public.
Avec du public. Avec
des bruitages.
On est en quelle année? On est dans les années
30, 20 ou peut-être début des années.
C'est juste après, je pense.
Je dirais 50, moi. Dans les...
Non, pas du tout. Alors, les années 20, 30, oui.
Ah ouais, ok, d'accord.
À quoi que, attends, parce que comme ils parlent qu'ils sont acquittés après...
Ça se passe après le procès, quoi, mais...
Je sais plus. Il y a Scorsese qui vient faire le...
Un caméo final
pour expliquer qu'un tel va faire tant de prison et va sortir au bout de tant d'années. Et en fait, ça, c'est le film, peut-être, que tu aurais voulu voir, mais qui, en fait, t'explique on en fait un spectacle. Et en faire un spectacle, ça veut dire qu'il n'y a pas les Indiens sur la scène. Il n'y a pas d'Indiens, donc ce public, il est exclu. Donc c'est pour ça qu'il l'a fait de cette manière. C'est pour mettre les Indiens vraiment au cœur de cette histoire, pour leur rendre justice, pour pas juste qu'ils soient omnibulés par le spectacle, en fait.
Et leurs personnages ne sont pas, monolithiques, quoi. Ils sont montrés avec une humanité et une véracité formidables. Ils sont touchants, ils sont parfois grotesques aussi.
Ils sont victimes, mais ils sont jamais filmés comme des victimes.
Voilà. Mais c'est moi j'aime bien le personnage de comment il s'appelle là, celui qui est il l'appelle le mélancolique là pour justifier son suicide.
Celui qui se prend une balle, avec une balle par derrière.
Il est hyper touchant son personnage, triste.
Et pareil, il va à la banque, il fait mais arrêtez, c'est mon pognon, arrêtez. Pourquoi je dois toujours quémander quelques dollars, parce que à chaque fois c'est un truc qui revient souvent, c'est il y a Molly qui va demander de
Là on est reparti dans le film. On était sur la scène finale quand même, qui est quand même assez c'est quelque chose.
Elle est extraordinaire et cette apparition
en scène.
On sait que Scorsese fait des caméos dans quasiment tous ses films.
Peut-être pas tous, mais ça lui est déjà arrivé.
Voilà. Mais même souvent, il est un mec en arrière-plan, une voix au téléphone.
Oui, dans After Hours, un mec qui change les lumières dans une boîte de nuit.
Il joue un prophète encapuchonné face à Jésus dans le film aussi. Il est quasiment partout, mais plus ou moins caché. Et là, il a un caméo un peu comme dans Hugo Cabret où il était le photographe. Là il est en costume et
il est en host d'un show radio. mais j'ai très envie d'écouter parce qu'il y a les mecs qui font les bruitages derrière.
C'est super.
C'est extraordinaire. Il y a le petit orchestre et tout. Et
c'est drôle, c'est inventif, c'est inattendu.
T'as envie d'écouter ça, quoi. Tu dis, mais faites-en quelque chose, s'il vous plaît.
Non, mais
c'est un peu les true crime story de l'époque, en fait.
Mais c'est encore une proposition. Et c'est aussi ce qui est devenu.
C'est la mise en abîme, en fait.
Ce qui est devenu, malheureusement, ce fait, c'est très vite devenu juste un true crime story.
Voilà, un truc un peu sensationnaliste. Je vais y arriver. Mais un truc qui finalement. À force de mettre trop de spectacles sur cette histoire,
on oublie le facteur humain. Et en même temps, en tant que proposition de cinéma, on disait tout à l'heure, c'est un truc qui arrive dans le film. Le film est plein de moments comme ça.
Super idée. Que tu n'y attends pas. Hein.
Super idée super visuelle, idée. Super idée narrative. Et ça se termine. Alors je ne sais plus si c'est lui qui le dit ou si c'est en carton à la fin. Par contre, King est condamné. Mais au final...
Ils ont été acquittés pour bonne conduite, les deux.
Au final, tout le monde finit par être acquitté à un moment, même s'ils partent en prison. Mais au final, le système en lui-même reste et fonctionne en toute impunité. Mm. On sait très bien que, bon, a priori, les Osage sont perdants quoi qu'il arrive. Molly finit par...
C'est ça, c'est qu'il dit... alors, il te dit que lui, il va mourir à l'âge de 87 ans, le personnage de King L, et que Molly va mourir de diabète très peu dans les années 30, je crois.
Ouais.
Et c'est genre, il y a la petite phrase de d'échec total derrière, c'est, qu'est-ce qu'il dit ah oui, sa nécrologie
ne
mentionne pas les meurtres.
Ouais, c'est ça. Et en fait, de toute façon, tout le monde s'en fout à la fin. Et tout le monde, là, l'Amérique s'en fout et l'Amérique va les oublier. Et on sait très bien que voilà, qui va gagner, c'est le pétrole et c'est le système. Bah,
Donc c'est terrible. C'est terrible comme fin.
Voilà. Et non, mais tu sors de là, tu t'es pris une grosse... C'est même pas une tarte dans la tronche, tu t'es pris un gros coup de poing dans la gueule.
Bah t'as un poids sur les épaules.
T'as un poids sur les épaules terrible. Je pense que si t'es blanc américain, ça te doit...
Ça doit te faire cogiter.
Et t'as un peu de jugeote, ça doit te renvoyer à des choses sur toi et tes ancêtres.
Ça dépend de quel bord, bord politique tu te trouves.
Bah, évidemment. Non, bah, c'est sûr qu'il y en a qui sortent de là et disent « Oh, n'importe quoi !»
C'est un film de gros gaucho.
Allez, je remets ma casquette, mec, américain.
Non, mais c'est un truc, ça te travaille, quoi. C'est hyper dur. Hein. C'est... Et en même temps, il y a une universalité dans le message et la justesse des personnages qui... Je pense que ça peut parler à tout le monde, en fait. Pour moi, c'est là où le film n'est pas si difficile d'accès, c'est que tu comprends tout.
Ouais, j'ai juste peur du bouche à oreille, moi. Parce que c'est un film nécessaire.
Ouais.
Hein, comme
non,
on aime bien...
Non, moi, je déteste ce...
Oui, non, mais je sais bien.
Non, c'est pas un film nécessaire.
J'ai mis les guillemets, t'as vu.
Ouais, ouais. Hein. Mais on les voit pas.
Mais non, mais c'est oui, mais je sais pas, en termes de bouche à oreille, je sais pas comment ce film va vivre derrière.
Je sais pas. Moi, je me rappelle d'une dernière anecdote là, de Scorsese qui disait qu'il s'attaquait là, basiquement, au genre western. Il disait, bon ben, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter?
Ouais,
il
voilà.
disait, le western, ça s'est terminé avec la Horde sauvage, tu peux rien amener d'autre. Et ben là... Il inscrit dans l'histoire du grand cinéma américain un truc, encore une fois, une nouvelle proposition jamais vue, inédite, nouvelle, en reprenant tous les grands codes, en faisant un nouveau film de grand cinéma comme ça n'existe quasiment plus, tout en embrassant les thématiques de son époque, en révélant à la face du monde un événement incroyable. Donc, je sais pas ce que va donner le bouche à oreille, mais...
Ah, ce qui était marrant, c'est par rapport au western, c'est qu'il disait qu'en fait, lui, il était plus client du western qui travaille la mythologie de l'Amérique que le western psychologique. Et en fait, je pense que si on devait ranger le film dans la case western, on serait plus, je pense, dans le western psychologique, justement.
Oui, sans doute,
C'est drôle.
Mais en tout cas, je pense que le film va s'inscrire dans l'histoire du cinéma, je pense, américain en tout cas.
Eh ben écoute, je propose qu'on termine là-dessus.
Très bien.
Je propose qu'on termine là-dessus, sauf si, tu sais, dans le film, à la fin, il y a des... à côté, quand il fait le true crime, ils font des bruitages. T'as un petit bruitage pour terminer.
Ah non, j'ai pas, mince.
T'as un petit triangle, tu vois, un truc.
Je sais pas, non, j'ai rien sous la main. Attends. Que ça serait un
je sais pas ce que
quoi,
ça signifie. ça signifie comme bruit.
On
ça.
Ferme la vitre, on le met sous.
Attends, je sais, regarde. Tiens, regarde, il y a du papier bulle. Est-ce qu'on peut faire des proutes avec des papiers?
Non, ça se fait pas. Ça.
Ouais, ça se fait pas, attends. On est des grands enfants.
Ah ouais.
Hein? Hop là. Allez, on s'arrête là, c'est sur ces magnifiques bruitages que nous allons refermer ce podcast Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese qui doit être à son entre 30 et 40 films, hein, pas loin de 40 longs métrages je crois.
Si on compte tous les docs.
Entre 30 et 40. C'est en salle a priori à l'heure où en tout cas nous enregistrons et vous écouterez ce podcast. N'hésitez pas à y aller s'il passe près de chez vous.
C'est une chance, on a de la chance quand même, parce que en France je sais pas, mais aux US il a failli ne presque pas sortir et venir juste sur Apple TV.
On espère que ce qu'on a dit a été assez pertinent.
Et c'est pas simple, hein. Je reviens juste sur mon cas, mais je l'ai vu il y a donc avant-hier soir, donc c'est encore très à chaud, tu vois, c'est pas facile de dégager un avis construit, quoi.
Mais moi, encore une fois, hein, moi je le dis, je demande qu'à ce que ça mûrisse dans ma tête et que j'y retourne dans quelques temps. Là, bon, je suis très mitigé, partagé. Bien que je reconnaisse ses immenses qualités, évidemment. Et pour toi, quand même, tu as quand même parlé de chef-d'œuvre. Hein,
ah
carrément.
Oui, je le pense. Bon,
eh bien, écoute. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux. Ça se passe sur Twitter, @fin_de_séance, #fin_de_séance. On va essayer de revenir le plus vite possible, une fois de plus. On ne sait pas encore dans quel cadre.
On fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que la vie nous met des bâtons dans les roues.
Non, mais là. C'est ce qu'on dit dans le début d'émission. Scorsese, c'était évident. Il fallait qu'on en parle. Parce que c'est vrai que l'actualité ciné, ça faisait très, très, très longtemps qu'on ne s'était pas penché dessus. Mais là, voilà.
Depuis Avatar,
Depuis
Avatar 2, ouais.
Ouh la vache.
Bah, on avait eu quelques envies. Hein,
on y a eu quelques ratés.
Ouais, mais tu vois.
On hésite toujours parce qu'on se dit les gens vont vouloir écouter alors que le film est sorti depuis déjà plusieurs semaines et qu'il n'est peut-être même plus à l'affiche. Mais dites-le nous d'ailleurs sur les réseaux si ça vous gêne.
Rétrospectivement, tu vois, on n'a couvert aucun film de cet été et
voilà. Moi, j'aurais bien aimé faire Oppenheimer, mais.
T'aurais bien aimé faire Oppenheimer.
Moi, j'ai bien aimé Oppenheimer, d'accord. Mais.
Mais je ne savais pas, tu ne me l'avais pas dit d'ailleurs.
Bah non, on n'avait pas parlé. Mais je trouve que ça aurait été intéressant de le faire parce que je pense que c'est. On peut ne pas aimer, mais c'est un film quand même qui va à l'encontre de plein de choses aujourd'hui, comme le Scorsese.
Tu t'es pas insurgé quand on a fait
une
digression sur Oppenheimer tout à l'heure.
Vous avez le droit de pas aimer, hein, les gars, il n'y a pas de souci. Hein.
Bon, ok, très bien. Bon, bah voilà. Première nouvelle, je ne savais pas que tu avais bien aimé Oppenheimer. Killers of the Flower Moon, replongez-vous dans la filmographie de Scorsese. On espère que toutes ces thématiques, si jamais vous ne connaissez pas bien la filmo de Scorsese, c'est disponible très très facilement. Il y a beaucoup de choses, franchement.
Il y a des classiques.
Il y a des classiques énormes. Et surtout, ça vaut le coup quand on a l'image de lui, simplement, cette espèce de réalisateur de films de gangsters. En fait, ce qui n'est pas vrai, il n'en a pas fait, fait très peu, finalement, dans sa filmo, même s'il y en a qui sont indirects. Directement des films de
gangsters. Et c'est pas juste un vieux cinéaste qui critique les films Marvel. Hein. Donc,
non, absolument pas. Il y a des trucs... c'est immense.
Et quand même, au-delà du Loup de Wall Street, des Affranchis, de Taxi Driver,
Casino,
de Raging Bull,
Mean Street,
de Casino, des plus connus...
After Hours, moi je conseille, c'est génial.
Il y en a vraiment... Il y en a un qu'on avait vu ensemble, Pierre, Silence.
Ah, très très beau. Dans les derniers, dans les tout derniers, Silence, c'était très très beau.
Franchement,
très
ça mérite le coup d'œil. Ça mérite le coup d'œil, c'est... Est-ce que c'est un film facile d'accès, Silence ? Je ne sais pas.
Non, mais
c'est vrai que ça prend à contre-pied toute l'imagerie qu'on peut avoir des films de Scorsese, des films de gangsters, etc. Il y a vraiment des films très très puissants.
Comment il s'appelle le réalisateur de Joker ?
Todd Phillips
a pompé allègrement son film King of Comedy. La valse des pantins. Retournez voir La valse des pantins. Vous allez prendre encore une autre tarte dans la tronche.
Donc n'hésitez pas à aller voir, à vous plonger dans cette filmographie, dans son immense filmographie, même les documentaires d'ailleurs, hein, même les concerts qu'il a captés des Stones. Enfin, c'est d'une richesse incroyable. C'est fou quoi.
Ces conseils cinématographiques, ces recommandations, j'en ai récupéré le plus possible, parce que c'est pas toujours facile à trouver, mais c'est dingue.
Il y a sa fondation là, qui édite un film restauré tous les mois, je crois, en ligne, qui le met à disposition en ligne. C'est un immense monsieur du cinéma. Hein,
ouais.
Et si vous avez des cinémas près de chez vous qui organisent des rétrospectives, nous on a eu la chance là sur Paris il y a quelques jours que le Max Linder
fasse
une rétro Scorsese. Si jamais c'est le cas là où vous trouvez, allez-y, foncez sur grand écran, c'est toujours une autre dimension forcément, donc n'hésitez pas, voilà, et on peut en reparler sur les réseaux. Les amis, gros bisous.
Gros bisous.
Se retrouve très vite, on espère. Et puis n'hésitez pas à commenter, partager, liker ce podcast, parlez-en autour de vous.
Thomas a tort.
Faites-moi taire.
Envoyez-lui des trucs pour son mal de dos aussi.
Voilà. À très vite.
Très vite.
Allez, gros bisous. Ciao.
Salut.
Ciao.
Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. Okay.